VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Le président américain Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel vont se rencontrer à la Maison-Blanche ce vendredi pour leur premier face-à-face. L'enjeu est de taille, compte tenu des déclarations du candidat Trump l'an dernier sur l'OTAN et les relations transatlantiques. Gabi Dorsil.
Les différences sont évidentes. Donald Trump prône l'Amérique d'abord. Angela Merkel défend le libre-échange. Ils n'ont pas toujours dit du bien l'un de l'autre. On se souvient de cette accusation de Donald Trump durant la campagne électorale.
J'étais autrefois un fan de Merkel. Je croyais qu'elle était un leader fantastique. Je pense maintenant que ce qu'elle a fait à l'Allemagne est une disgrâce.
La chancelière non plus n'a pas été tendre en décrivant le décret de Donald Trump sur l'immigration, par exemple. Aujourd'hui, les deux leaders sont obligés de joindre leurs forces pour faire face aux questions les plus urgentes de l'heure, d'où le nouveau ton conciliant de Mme Merkel.
Je suis profondément convaincu que nous avons intérêt à entretenir un partenariat transatlantique fondé sur des valeurs communes. Et c'est vrai, pas seulement pour les Européens. Mes entretiens avec le président Donald Trump se dérouleront dans cet esprit.
Autant donc s'attendre à un temps de compromis aujourd'hui à la Maison-Blanche sur la viabilité de l'OTAN, par exemple, que Trump a qualifié de surannée, et aussi sur le commerce. Néanmoins, les Européens veulent être pris en bloc, alors que Trump privilégie les accords bilatéraux.
Actualité américaine toujours, le projet de budget 2018 présenté par la Maison-Blanche prévoit une augmentation de l'enveloppe allouée à la défense aux dépens de celle consacrée au département d'État, à l'aide étrangère et aux contributions des États-Unis aux organisations internationales. Des voix s'élèvent pour mettre en garde contre un affaiblissement de la diplomatie américaine. Lionel Gaïma.
Le nouveau budget prévoit une hausse de 54% du budget du Pentagone, une augmentation compensée par des coupes ailleurs, comme 28% du budget du département d'État et des programmes internationaux. Pour Adotei Akoui d'Amnesty International, ces coupes auront un impact dévastateur. Les organisations de la société civile, les gouvernements sont extrêmement préoccupés, non seulement par la réduction ou la suppression des ressources, mais aussi par le vide que laissent les États-Unis en tant que partenaire, source de créativité et voix des droits humains. La bureaucratie du département d'État est pléthorique et les coupes budgétaires lui seront bénéfiques, estime pour sa part l'ancien diplomate américain James Robert. Il y a suffisamment de possibilités de réorganiser le département d'État pour en faire un représentant plus efficace et plus effectif du peuple américain, un acteur à l'étranger avec des tâches plus simplifiées pour lesquels les fonds seront dépensés. Les législateurs n'accepteront pas une forte réduction de fonds de l'aide étrangère et de la diplomatie américaine, prédit George Ingram, ancien fonctionnaire au Congrès, ce que confirme le sénateur républicain Lindsey Graham, qui avertit que la guerre contre le groupe État islamique en pâtirait. Ce que je veux dire que cette commission comprenne, c'est que tous les budgets adoptés avec des coupes claires dans le budget du département d'État ne nous permettra jamais de gagner cette guerre. En fait, c'est le groupe État islamique qui célébrera. Le moins que l'on puisse dire est que le premier budget du président américain Donald Trump fera l'objet de vigoureux débats au Congrès dans les mois à venir.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Consultation hier à New York entre la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Madame Haley a réaffirmé le soutien des États-Unis à la Centrafrique et ce tant que le gouvernement de Bangui restera engagé en faveur du maintien de la paix et de la démocratie et aussi de l'aide au peuple centrafricain. Selon le communiqué publié après les entretiens, Nikki Haley et le président Touadéra ont discuté aussi de l'engagement des États-Unis envers la MINUSCA et des moyens de rendre aussi efficace que possible la mission onusienne en RCA. La diplomate américaine a également souligné la volonté des États-Unis de travailler avec la Centrafrique pour réformer son armée et développer son économie afin que le peuple centrafricain puisse enfin connaître paix, sécurité et prospérité. Politique en RDC, après un mois et demi de suspension, les pourparlers de sortie de crise en RDC ont repris jeudi à Kinshasa sous l'égide de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale catholique du Congo. Les évêques congolais ont exhorté majorité et opposition à cesser leur marchandage et à travailler à l'application de l'accord de cogestion du pays et à l'organisation de la prochaine présidentielle. À l'occasion de ces nouvelles discussions, les évêques soulignent leur intention de déceler toutes les manœuvres dilatoires visant à retarder l'application de l'accord et s'engage à établir désormais les responsabilités de ceux qui seront à la base d'éventuels blocages. De passage à Washington, Jean-Claude Katende, le président de la SADO, l'Association africaine des droits de l'homme, met l'accent sur la responsabilité du pouvoir à Kinshasa.
C'est malheureux que la majorité au pouvoir en République démocratique du Congo aujourd'hui bloque la mise en œuvre du dialogue. En 2017, nous pensons que c'est une date irrévocable. Si les politiciens veulent trouver leur combine pour aller au-delà de ce qui est inscrit dans l'accord du 31 décembre, il faut qu'ils se rappellent que la population est très attachée à cet accord. Parce que n'eût été cet accord, je pense qu'on aurait parlé d'autre chose en République démocratique du Congo. Notamment, on aurait parlé d'une révolution en République démocratique du Congo.
Jean-Claude Katende, président de la SADO, l'Association africaine des droits de l'homme. On passe au Gabon. Les syndicats gabonais ont demandé à plusieurs institutions internationales d'exercer des pressions sur les autorités de Libreville pour faire respecter les droits des travailleurs et les droits de l'homme. C'était dans un communiqué reçu jeudi. John Lyndon.
Proche de l'opposition, la Confédération syndicale dynamique unitaire dénonce des grèves réprimées par les forces de l'ordre, notamment l'intervention policière fin février contre les grévistes de l'entreprise pétrolière Morel et Prom, ou la suspension par le gouvernement des salaires de 807 enseignants grévistes de l'enseignement public. Elle appelle ces institutions, dont l'Union européenne, l'Union africaine et l'Organisation internationale du travail, à exercer des pressions multiformes, voire à porter plainte contre le gouvernement gabonais pour faire respecter les droits des travailleurs, les droits de l'homme, l'état de droit et les valeurs démocratiques. Le communiqué des dynamiques unitaires intervient une dizaine de jours avant le lancement du dialogue politique proposé par M. Bongo après sa réélection en août face à son rival Jean Ping, qui conteste toujours le résultat de la présidentielle et qui a annoncé qu'il boycotterait ce forum.
Afrique du Sud, la plus haute instance judiciaire sud-africaine, a mis aujourd'hui un terme provisoire à la controverse autour du versement des aides sociales à 17 millions de personnes. Controverse qui nourrit depuis des semaines le procès en incompétence du gouvernement. L'arrêté de la Cour constitutionnelle assure le versement menacé d'interruption des aides sociales au-delà du 1er avril. Le paiement de ces allocations sociales est un facteur de la popularité toujours très forte du Congrès national africain, l'ANC, qui dirige l'Afrique du Sud depuis la chute officielle de l'apartheid en 1994. Corne de l'Afrique maintenant, 33 réfugiés somaliens ont péri au large du Yémen lorsque leur embarcation a été visée jeudi soir par un hélicoptère. Selon un garde-côte affecté à une zone contrôlée par les miliciens houthis en territoire yéménite, Mohamed Al-Alaï a déclaré à l'agence Reuters que les réfugiés, des femmes, notamment des femmes et des enfants, porteurs de documents officiels du HCR, se rendaient du Yémen au Soudan lorsqu'ils ont été attaqués par un hélicoptère Apache près du détroit de Bab al-Mandeb à l'entrée de la mer Rouge. Selon un marin qui était à bord du bateau, 80 réfugiés ont été secourus. Aucune information ne permet dans l'immédiat d'attribuer la responsabilité de la frappe aérienne. Politique en France, la candidate d'extrême droite à l'élection présidentielle française, Marine Le Pen, rendra visite aux soldats de la force française Barkhane au Tchad en milieu de semaine prochaine. La présidente du Front national rencontrera les militaires français mercredi 22 mars au quartier général de la force à N'Djamena, la capitale tchadienne. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP la porte-parole du ministère de la Défense. L'armée française est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme sur les théâtres extérieurs comme le Sahel et le Moyen-Orient et en France même avec l'opération Sentinelle. Rappelons qu'en décembre 2016, le candidat conservateur à la présidentielle, François Fillon, s'était rendu à Gao au Mali et à Niamey au Niger pour une visite à la force Barkhane.